Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. La compétition stratégique avec la Chine promet d'être au centre du second mandat de Donald Trump. Pression économique via de nouvelles sanctions commerciales, engagement militaire et technologique accru pour contrer Pékin, mobilisation et renforcement des alliés et partenaires des États-Unis dans la région face à la Chine, à coup de pression visant à une augmentation des dépenses militaires et des achats d'armement américains. La stratégie de Washington vis-à-vis de la Chine est un sujet de continuité bipartisane. Aux États-Unis. Inquiets, les Chinois privilégient en ce début de mandat une attitude du wait and see, mais appréhendent l'imprévisibilité de Donald Trump, eux dont les réactions sont par ailleurs difficiles à prévoir. Nos invités par téléphone depuis Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur émérite à l'Université Baptiste de Hong Kong, également chercheur à Asia Centre Paris. Jean-Pierre Cabestan qui vient de publier Deng Xiaoping, révolutionnaire et modernisateur de la Chine, aux éditions Talandier, bonjour.
Bonjour.
En studio, Marc Julien, directeur du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, directeur d'une toute récente étude intitulée L'Indo-Pacifique face à Trump 2 dans l'étreinte brutale de l'oncle Sam. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Et Romuald Ciora, essayiste franco-américain, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Son dernier livre, L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence. Cher Armand Collin, bonjour.
Bonjour.
Deux jours avant l'investiture, Trump et Xi se sont parlé au téléphone. La Chine a envoyé une importante délégation à Washington pour assister à l'investiture du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Apparemment, Donald Trump a décidé de s'en prendre d'abord à la Russie avant la Chine, mais difficile de décrypter entre les déclarations de Donald Trump qui se dit très mécontent de la place prise par la Chine autour du canal de Panama et la mesure d'apaisement prise sur le dossier TikTok. C'est la politique du chaud et du froid. Alors, quel sens donner à la décision de Trump de sauver TikTok? Est-ce que le message envoyé est de dire bah voilà, les États-Unis sous Trump adoptent une ligne dure face à la Chine mais restent ouverts à des solutions pragmatiques? C'est la question. En tout cas, pour commencer avec vous, Jean-Pierre Cabestan, qu'est-ce que l'on peut dire de l'état d'esprit des Chinois et comment la Chine aborde ce second mandat de Donald Trump?
Écoutez, vous l'avez dit dans votre introduction, je pense que la Chine aborde ce second mandat de Donald Trump avec beaucoup d'appréhension. Alors, il y a quelques signes favorables, vous les avez indiqués aussi en partie, c'est-à-dire que Xi Jinping et Trump ont eu déjà des échanges avant l'investiture de Trump. Trump avait invité Xi Jinping à son inauguration. Finalement, c'est le vice-président de la République populaire qui vient, c'est quelqu'un qui s'appelle Han Zhang, qui n'est pas haut placé dans la hiérarchie, le numéro 8 de la hiérarchie du Parti communiste, mais ça, c'est quand même un signal positif. Mais en même temps, il y a beaucoup de signaux négatifs. Vous avez encore indiqué les faucons qui ont été promus dans l'équipe Trump. Le premier qui vient d'être confirmé parmi les faucons, mais avec un soutien unanime du Sénat, c'est Marco Rubio. Mmh. Marco Rubio qui va être
secrétaire d'État.
Maintenant le secrétaire d'État. Et vraiment, si vous écoutez les échanges qu'il a eu avec la commission du Sénat pour les affaires étrangères, c'était très, très orienté contre la Chine, aussi contre la Russie. Mais enfin, la Chine était vraiment le centre de son attention. Et donc, ça va être une présidence quand même très, très préoccupée par la montée en puissance de la Chine et qui va faire tout pour défendre les intérêts américains, à la fois intérêts commerciaux, intérêts industriels, technologiques, mais aussi intérêts géostratégiques dans la zone Asie-Pacifique, dans la zone même Indo-Pacifique. Et donc ça, c'est quand même... alors, il y a le Mr. Elon Musk dans cette affaire.
Elon Musk, ouais.
Est-ce qu'il va jouer les go-between? Est-ce qu'il va jouer les intermédiaires? C'est lui qui pourrait améliorer, si vous voulez, ou détendre un peu l'atmosphère. On ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que TikTok, ils vont devoir trouver une solution pour TikTok. C'est-à-dire que TikTok va être acquis d'une manière ou d'une autre par les États-Unis. Je pense que Biden, le propriétaire de TikTok, n'est pas opposé à cette solution. Mais ça voudrait dire que les Américains ou une entreprise américaine prendrait la majorité des parts dans TikTok. Mm. Donc c'est comme ça que Trump envisage de trouver une solution au problème TikTok qui, comme vous le savez, en fait est interdit, légalement est interdit de séjour aux États-Unis depuis la décision récente de la Cour suprême. Donc c'est quelques semaines de sursis que TikTok a obtenu grâce à l'agent Trump.
Alors, je sais pas.
Beaucoup d'appréhension.
Beaucoup d'appréhension. Je ne sais pas si vous voulez réagir ici en studio sur l'affaire TikTok. Ce qui m'intéresse, peut-être pour commencer aussi, puisque j'ai posé la question à Jean-Pierre Cabestan de savoir comment la Chine abordait ce second mandat, le regard des Américains, ou en tout cas de l'Amérique du Nord, Romuald Ciora, sur la Chine, on a le sentiment un peu d'une sorte de victimisation. Tous les problèmes qui prévalent aujourd'hui aux États-Unis, c'est la faute à Pékin.
Oui, alors pour rebondir sur TikTok et Elon Musk, il y a un sentiment chez les États-Unis de victoire. C'est-à-dire que les États-Unis, les Américains, effectivement perçoivent la Chine un peu comme le grand méchant du moment. Il a toujours fallu pour les Américains, depuis l'aube et depuis la révolution de 1776, un ennemi. Mmh. Ça a été d'abord l'ennemi britannique, ensuite ça a été l'ennemi espagnol, etc., etc. Et bien évidemment l'Union soviétique durant la guerre froide. Depuis le début du XXIe siècle, le grand méchant, celui qui un jour sera celui qu'on affrontera peut-être sur un champ de bataille dans la psyché américaine, c'est évidemment la Chine. Donc la prise possible, potentielle de contrôle de TikTok aux États-Unis par Elon Musk est perçue par l'Américain lambda comme la preuve que les États-Unis peuvent venir au secours d'une entreprise chinoise, peuvent la racheter et que donc tout n'est pas perdu. Donc tout ça est vu, je dirais, positivement. La Chine n'est pas la principale préoccupation des États-Unis. Néanmoins, effectivement, ils perçoivent, comme je viens de le dire, cette puissance comme le grand rival du moment, ce qui est la réalité. Grand rival commercial, mais il y a aussi cette crainte de devoir peut-être un jour affronter la Chine militairement. Et je dirais que les Américains qui aiment bien se préparer à ce genre de conflit s'y préparent. Et d'ailleurs, vous avez dans la culture populaire de plus en plus de mangas, de comic books, etc., où l'ennemi, comme un petit peu dans les années 70-80, c'était le soviétique, est le chinois. Si vous prenez bande dessinée Marvel, DC, etc., vous verrez qu'à chaque fois, on se bat contre des super vilains, des espions, etc. Donc, la Chine, pour conclure, est perçue comme le grand méchant du moment et l'ennemi numéro un des États-Unis.
Alors, j'aimerais revenir sur ce que disait Jean-Pierre Cabestan, Marc Julienne, qui évoquait donc la montée en puissance de la Chine. On s'arrête quelques instants sur la situation économique aujourd'hui de la Chine. Alors, des informations qui évoquent que ça va du ralentissement de la croissance, crise du secteur immobilier, baisse du marché boursier, endettement critique des gouvernements locaux, recul de la consommation interne, augmentation du chômage des jeunes, exacerbation des lacunes dans le système de sécurité sociale et de retraite. Cette situation, évidemment, engendre une avalanche de questionnements et d'inquiétudes quant aux perspectives du développement chinois et à la capacité de Pékin d'y faire face. Comment vous voyez les choses ?
Oui, je souscris. La liste que vous avez dressée est longue et pourtant elle est peut-être même pas exhaustive. Jean-Pierre Cabestan avait parlé d'appréhension du côté chinois. J'y souscris complètement. J'ajouterais même fébrilité. J'étais à Pékin au mois de décembre et c'est le sentiment que j'ai eu, une certaine fébrilité par rapport au retour de Donald Trump au pouvoir, puisque l'économie chinoise, pour simplifier, marchait sur deux jambes depuis une trentaine d'années, sur l'immobilier. Vous avez dit effectivement que dans votre liste que l'immobilier aujourd'hui était quasiment à l'arrêt. En réalité, la deuxième jambe, le deuxième moteur, c'était les exportations basées sur l'industrie manufacturière. Et là, effectivement, il y a une difficulté de vendre à l'étranger et surtout de vendre à la population chinoise, à cette fameuse consommation intérieure qui n'arrive pas à émerger. Donc en fait, aujourd'hui, il y a le seul moteur de la croissance chinoise, ce sont les exportations. Et l'arrivée de Donald Trump au pouvoir et les annonces qu'il a réitérées récemment d'imposer des droits de douane importants à la Chine.
Alors, 60%.
A priori, ce serait 10% sur absolument tous les produits. Et puis ensuite, par secteur, sans doute des taux beaucoup plus élevés. Et donc là, c'est quand même une menace qui peut s'avérer extrêmement dure, dangereuse pour les intérêts de la Chine, puisque ça visera directement le seul relais de croissance chinois aujourd'hui, qui sont les exportations. Et donc là, je pense qu'il y a une véritable crainte. Alors, les autorités chinoises essayent de s'y préparer, essayent d'encaisser le coût à venir. Il y a des annonces depuis le mois de septembre de la part du gouvernement chinois pour essayer de mettre en place des mesures qui pourraient stimuler la croissance intérieure. Mais ça, finalement, c'est quelque part, c'est un peu un serpent de mer. Hein. La question de la croissance de ce marché de 1,4 milliard de consommateurs chinois, c'est ce dont on parle depuis des années. Et les autorités chinoises cherchent à faire cette transition économique vers cette consommation intérieure et vers le secteur des services. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et les premières mesures qui ont été annoncées semblent bien faibles, bien timorées par rapport à l'État, par rapport rapport aux besoins intérieurs. Et vous aviez mentionné l'absence de protection sociale, l'absence de système social qui permettrait aux Chinois d'épargner moins et de consommer plus. Et là, aujourd'hui, les mesures annoncées sont encore beaucoup trop faibles.
Alors, tout ça pour dire, Jean-Pierre Cabestan, que finalement, la Chine, à l'analyse qu'on vient de faire, je ne sais pas si vous souhaitez la compléter, la Chine, elle a besoin de meilleures relations avec Washington. Alors, d'aucuns évoquent une sorte de japonisation de l'économie chinoise avec en perspective une stagnation économique persistante. En tout cas, voilà, les similitudes abondent sur ce comparatif à faire avec le Japon, dont on peut rappeler aussi une époque, l'Europe, et pas seulement elle, était vraiment envahie de produits japonais. Et l'économie japonaise, s'est écroulée et n'a pas véritablement remonté. Ce parallèle vous semble reposer sur quelque chose, Jean-Pierre Cabestan ?
Alors, écoutez, Marc-Julien a dressé un tableau assez complet de la situation. Ce que je peux dire d'abord, c'est que officiellement, la Chine a affiché un taux de croissance de 5% l'an dernier. Le problème, c'est que personne n'y croit et que les Chinois eux-mêmes n'y croient pas parce qu'ils voient bien que, en fait, l'économie n'a pas cru autant, qu'il y a un ralentissement économique évident. On pense que la croissance l'an dernier était plutôt de 2 à 3%. Certains instituts comme l'Eurodium ont avancé ce chiffre. Il y a un vrai problème. Et ce qui explique la relative prudence de la Chine et de Xi Jinping à l'égard des États-Unis, ils en connaissent le coup. Ils laissent les Américains s'exciter contre la Chine, mais pour l'instant, ils font un poule de rond en espérant qu'ils vont essayer de trouver un terrain d'entente sur un certain nombre de sujets avec l'administration Trump, notamment les sujets commerciaux. La question de savoir si la Chine a la même situation que le Japon, il y a des similitudes évidemment, parce que le Japon aussi bénéficie d'un énorme excédent commercial. La Chine, vous avez vu l'an dernier, affiché un excédent commercial de 1 000 milliards de dollars, enfin 992 milliards de dollars. Une somme incroyable, et ça ne peut pas durer, dont un tiers avec les États-Unis. Certains pensaient qu'il y avait un découplage économique entre la Chine et les États-Unis, mais étant donné d'ailleurs le volume des échanges entre les deux pays, le montant du déficit américain, on est loin d'un découplage. Il y a une prévention contre les risques dans les domaines stratégiques et domaines technologiques de pointe, mais pas de découplage. Alors le ralentissement de la Chine a longtemps été perçu comme un risque pour la Chine de tomber dans le piège du revenu moyen. Donc, c'est une situation assez différente de celle du Japon. Ce qui est certain, c'est que comme le Japon, la Chine continue de se développer sur la base de ses exportations et peine à évoluer vers une croissance tirée par la consommation, par le secteur des services. Et dans le contexte de la crise de l'immobilier, c'est très difficile pour la Chine d'évoluer dans ce sens-là. Donc, on ne sait pas encore, si vous voulez, la réponse à votre question, c'est qu'on ne sait pas encore si la Chine va entrer dans une période de stagnation. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le taux de croissance de l'économie chinoise va se stabiliser autour de 3 ou 4% et elle ne peut plus espérer des croissances à deux chiffres ou même un taux de plus élevé que 5%. Donc, d'où la prudence chinoise à l'égard des États-Unis et plus largement les ouvertures que fait la Chine aujourd'hui, pour en revenir à notre sujet, en direction des autres pays, le Japon, la Corée du Sud, mais aussi l'Union européenne. Donc, on voit bien que la Chine essaye d'améliorer par tous les moyens ses relations avec le monde parce qu'elle a besoin du monde extérieur plus qu'il y a quelques années.
Alors, ce qui est très intéressant dans tout ce qui se passe et ce qui va se passer, c'est finalement cette sorte de ressemblance entre les théâtres européens et les théâtres asiatiques, Marc-Julienne. Les exportations chinoises vont se déverser sur l'Europe. Et la question du théâtre asiatique, avec une stratégie américaine vis-à-vis de la Chine qui nécessite l'implication de partenaires, je ne sais pas si Trump va prendre des partenaires en Europe comme il les a déjà en Asie, Marc-Julienne.
Alors, ce qui est sûr, c'est que ça va être beaucoup plus difficile pour les Européens de gérer leurs relations avec Donald Trump que pour les Asiatiques, parce qu'il semble que les Asiatiques soient mieux préparés. Je pense qu'ils ont, pour la plupart, bien mieux retenu les leçons du premier mandat de Donald Trump. Donc, certains ont déjà développé leur politique, leur stratégie économique, notamment de diversification, et ont aussi musclé leur stratégie de défense, ce qui fait qu'ils ont moins à craindre les critiques de Donald Trump, qui poussent toujours à augmenter les dépenses militaires et acheter plus de matériel américain. Ils ont pris les devants. Ce qui va se passer pour l'Europe, c'est effectivement la crainte que l'Europe soit finalement reçoive une vague de surcapacité industrielle chinoise et notamment en précisément les véhicules électriques. Donc ça, maintenant, c'est à l'Europe de prendre ses responsabilités et de prendre les mesures qu'il faut pour essayer de limiter cela. Et côté asiatique, certains craignent, ça fait partie des hypothèses possibles, que Donald Trump se désengage finalement du théâtre asiatique. Et je ne pense pas que ce sera le cas. Je pense qu'il y aura au pire un désintérêt de la part de l'administration Trump de certaines zones, notamment l'Asie du Sud-Est, où certains pays veulent conserver une stratégie d'équilibre entre la Chine et les États-Unis, et peut-être que Trump va tout simplement se désintéresser de cela. Le nouveau secrétaire à la Défense, qui doit être confirmé, ne savait même pas placer l'ASEAN, l'association des pays du Sud-Est asiatique, sur une carte. Donc ça montre l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour cette région. Mais pour ce qui concerne des alliés traditionnels et importants, ces alliances bilatérales que les États-Unis ont avec la Corée du Sud, le Japon et les Philippines, mais aussi l'Australie, à mon avis, vont rester extrêmement pertinentes, et les États-Unis en auront toujours besoin. De même avec Taïwan, on dit souvent que Donald Trump est dur avec ses adversaires, mais encore plus dur avec ses partenaires et alliés. Bon, bah là, il y a eu des déclarations de Donald Trump ces dernières semaines, ces derniers mois, assez virulentes à l'égard de Taïwan, sur le fait que Taïwan peut-être volerait des emplois américains, notamment dans le domaine des technologies et des semi-conducteurs. Mais en réalité, il y a une dépendance des États-Unis à Taïwan pour ces semi-conducteurs. Il y a un besoin, il y a une utilité stratégique, si je puis dire, de Taïwan sur le dispositif, le réseau d'alliances américains dans la région est-asiatique. Et donc là aussi, je crois que l'administration Trump 2 conservera un soutien fort politique et militaire vis-à-vis de Taïwan. Et d'ailleurs, il faut rappeler que la première administration Trump est celle qui a le plus soutenu Taïwan de l'histoire des États-Unis depuis 1979 et depuis la reconnaissance de la République populaire de Chine par les États-Unis.
Alors le secrétaire à la Défense que vous évoquez, qui est encore non confirmé, c'est Pete Hegseth à la Défense. Et pour ce qui est des faucons particulièrement remontés contre Pékin, on l'a évoqué précédemment, c'est donc Marco Rubio, le secrétaire d'État. Et puis, bien sûr, le vice-président J.D. Vance, particulièrement acerbe vis-à-vis de la Chine. Romuald Seurat, est-ce que Elon Musk, donc, que je n'ai pas encore mentionné, mais il ne fait pas partie des faucons, il a des relations avec la Chine qui sont particulièrement développées, est-ce qu'il peut surprendre sur la Chine, Elon Musk?
Je dirais qu'il ne peut pas surprendre sur la Chine comme il aurait pu ou comme il peut surprendre dans d'autres dossiers. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Trump 2025 n'a rien à voir avec Trump 2017. C'est un homme préparé, entouré, la plupart du temps, de personnes hautement qualifiées, je pense à Rubio, d'intellectuels comme J.D. Vance, et aussi de Susie Wiles, dont on ne parle pas assez, la nouvelle secrétaire générale secrétaire générale de la Maison Blanche, qui est sa principale adjointe, son bras droit. Toutes ces personnes ont donc un projet très précis, que ce soit pour l'Amérique ou pour l'international. Donc pour répondre à votre question, l'international va essentiellement se jouer à la Maison-Blanche. Marco Rubio, il faut bien avoir également à l'esprit que Marco Rubio, comme cela a été dit, est donc un faucon, donc assez éloigné de la ligne politique de Donald Trump quant à la politique internationale. Donald Trump est tout sauf un va-t-en-guerre, non pas par amour de la paix ou par altruisme, mais tout simplement parce que la guerre est mauvaise pour le business. Tandis que Marco Rubio est effectivement un faucon, c'était quelqu'un qui était pour une guerre de haute intensité avec l'Iran, très agressif à l'égard de la Chine, etc. etc. Donc Marco Rubio a accepté ce poste plutôt dans la perspective de 2028. Mmh. Il voulait une position très importante dans l'administration, il l'a obtenue, donc il avalera certaines couleuvres. Donc la politique étrangère sera conduite par la Maison Blanche. Et effectivement, quand on connaît la proximité d'Elon Musk avec Donald Trump, on pourrait voir Elon Musk à l'occasion de certains dossiers surprendre vis-à-vis de la Chine. Mais à l'heure qu'il est, Elon Musk n'a aucune agressivité vis-à-vis de Pékin, et pour lui, c'est un partenaire essentiel dans sa stratégie. N'oublions jamais que la stratégie d'Elon Musk n'est pas tout à fait la même que celle de Donald Trump.
Romuald de Sioran, on vous retrouve avec Jean-Pierre Cabestan qui est avec nous par téléphone depuis Hong Kong et Marc Julien en studio après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur les relations à venir entre la Chine et les États-Unis sous le second mandat de Donald Trump. Nous retrouvons par téléphone depuis Hong Kong Jean-Pierre Cabestan, directeur de recherche émérite au CNRS, professeur émérite à l'Université Baptiste de Hong Kong, chercheur à Asia Centre Paris, et son dernier ouvrage, Deng Xiaoping, révolutionnaire et modernisateur de la Chine, chez Talendier. En studio, Romuald Sciorra, essayiste franco-américain, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Son dernier livre, L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence, chez Armand Collin. Et Marc Julien, directeur du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, directeur d'une toute récente étude intitulée L'Indo-Pacifique face à Trump dans l'étreinte brutale de l'oncle Sam. On a terminé la première partie de l'émission. Nous évoquions avec Romuald Sciorra la question de Elon Musk. Et avec cette question, est-ce qu'il va surprendre sur la Chine? Vous avez votre idée, Jean-Pierre Cabestan?
Oui, il a des intérêts en Chine, on le sait, avec Tesla, mais il est aussi très fortement concurrencé par BYD, BYD, le grand constructeur de voitures électriques chinois. Et puis, il a aussi dit des choses, notamment concernant son ex-Twitter, qui, évidemment, n'est pas autorisé en Chine, et en disant, mais pourquoi TikTok est autorisé aux États-Unis et X n'est pas autorisé en Chine? Alors, il espère ainsi rééquilibrer les relations, mais je pense que c'est... Il sait très bien que ça ne va pas se produire et qu'en fait, c'est une posture pour essayer d'obtenir quelque chose des Chinois dans d'autres domaines. Peut-être la cession de TikTok, peut-être des avantages pour Tesla en Chine ou d'autres avantages. Il est un peu dans une posture à la Trump, c'est-à-dire transactionnelle ou marchande. On fait des deals, y compris sur les questions très, très importantes, notamment les questions stratégiques. Donc ça, c'est une chose qu'il faut observer. La question que tout le monde se pose quand même aux États-Unis, mais aussi à l'extérieur, c'est combien de temps cette idylle entre Trump et Musk va durer, parce que ce sont deux égos énormes qui, un jour ou à l'autre, évidemment, entreront en conflit, j'imagine.
Alors, Donald Trump a dit qu'il se rendrait en Chine dans les 100 premiers jours de son mandat. Je ne sais pas si une date a été fixée. Je n'ai pas noté qu'une invitation ait été lancée. À ce stade, j'aimerais, peut-être pour nos auditeurs et pour nous tous, comprendre qu'est-ce que l'on peut dire de la liste des frictions qui existent aujourd'hui, Marc Julien, entre Washington et Pékin.
La première des frictions, elle est certainement commerciale. On l'a vu avec les annonces de droits de douane. Liée au commerce, mais en fait beaucoup plus importante et beaucoup plus stratégique que le commerce, c'est la technologie. Et là aussi, Donald Trump finalement a été précurseur, parce que c'est dans son premier mandat qu'il a porté la rivalité avec la Chine, qui était à ce moment-là commerciale. Il l'a porté sur les questions technologiques. C'est dans un contexte où il y avait des déploiements de réseaux 5G à travers le monde avec le constructeur Huawei, ce à quoi Donald Trump s'est opposé. Et donc depuis, et sous l'administration démocrate de Joe Biden, la question technologique est devenue vraiment la pointe de diamant ou le fer de lance, c'est peut-être la meilleure image, de cette rivalité, de cette compétition stratégique entre la Chine et les États-Unis. Donc ça reste quelque chose d'extrêmement important, et au cœur du cœur de cette rivalité technologique, ce sont les semi-conducteurs, puisque les semi-conducteurs sont la brique technologique fondamentale de toutes les technologies numériques d'aujourd'hui et de demain. Donc ça veut dire les progrès pour les nouveaux smartphones et les nouveaux ordinateurs, mais aussi pendant l'intelligence artificielle. Donc je pense que c'est là où se joue l'essentiel de la rivalité. Et puis bien sûr, il y a une rivalité qui est mise militaire, avec une montée en puissance de la Chine, une modernisation de l'armée populaire de libération chinoise, et auxquelles les États-Unis font face. Il y a eu sous l'administration Biden une reconfiguration un petit peu de la stratégie des États-Unis vis-à-vis de la Chine, avec désormais la mise en valeur plutôt d'une stratégie asymétrique, donc la production avec des programmes industriels très structurés, notamment je pense au programme Replicator qui vise à produire massivement des drones ou reconfigurer des avions de combat en drone, à les droniser, et donc à produire massivement des drones nationalement qui coûtent moins cher et qui pourraient mettre en œuvre la stratégie qui a été annoncée par les États-Unis, par l'Indo-PACOM, le commandement américain pour l'Indo-Pacifique, cette stratégie de Hellscape, ce qui signifie paysage d'enfer dans le détroit de Taïwan. C'est-à-dire que la menace n'est pas voilée, c'est si la Chine envahissait Taïwan, les États-Unis seraient en mesure de saturer l'espace aérien et maritime dans le détroit de Taïwan de centaines, de milliers de drones qui bloqueraient l'arrivée de la Chine. Donc je ne doute pour le moment que Donald Trump renverse cette stratégie ou change de cap. Et donc, j'anticipe même peut-être plus de friction sur le théâtre est-asiatique et en mer de Chine méridionale entre les armées chinoises et les forces armées américaines que ces dernières années ou ces 18 derniers mois avec l'administration Biden, qui était plutôt dans une logique d'apaisement et de dialogue et de reprise même, de réouverture des canaux de communication militaire. Là, je crois, avec ce qui a été dit précédemment avec ces différents faucons dans l'administration américaine, qu'il y aura plus de tensions et plus de frictions sur le plan militaire.
Alors, la question des terres rares, c'est évidemment un levier très puissant pour la Chine. C'est-à-dire que si Donald Trump décide du jour au lendemain d'imposer 60% sur les tarifs douaniers, la Chine n'est pas sans mesure possible de rétorsion, Marc-Julienne.
Alors oui, mais c'est un levier à double tranchant que la Chine utilise avec beaucoup de parcimonie depuis des années. Elle l'a utilisé une fois contre le Japon en stoppant les exportations de terres rares vers le Japon autour de 2010. Mais en fait, cette stratégie-là, je dis qu'elle est à double tranchant parce qu'elle justifie, elle légitimise et même elle encourage toutes les politiques de de-risking ou de découplage de China plus one que l'on voit fleurir en Europe, aux États-Unis, en Asie, etc. Et d'ailleurs, les terres rares n'ont de rare que le nom. Il en existe un peu partout dans le monde. Et donc, c'est parce que la Chine a commencé à élever la menace de contrôle d'exportation ou d'arrêt des exportations de terres rares que l'on a vu des mines réouvrir ou ouvrir en Australie, en Suède, aux États-Unis. Mmh. Et donc, c'est à double tranchant. La Chine l'a déjà fait sur des métaux critiques spécifiques, le gallium et le germanium notamment. Il n'est pas très clair pour moi dans quelle mesure ils l'ont mis en œuvre complètement, puisque le vocabulaire du communiqué officiel chinois dit un embargo de principe. Et donc, je ne suis pas totalement sûr qu'il n'y ait pas de gallium et de germanium qui arrivent aux États-Unis. Donc voilà, ils peuvent utiliser ce levier, mais à leurs risques et périls.
Romuald Seurat, la question de Taïwan, c'est une préoccupation pour Donald Trump.
Oui. Avant d'en venir à Taïwan, je me permets de revenir sur deux choses. Quant au couple Elon Musk-Donald Trump, il pourrait durer plus longtemps que ce que l'on pense. Les deux personnalités, effectivement, ont un égo surdimensionné, et donc il pourrait y avoir des étincelles, mais elles sont un petit peu otages l'une de l'autre. Pourquoi ? Donald Trump a en ligne de mire les élections de mi-mandat qui vont venir très vite, et il n'a aucun intérêt à se faire un ennemi d'Elon Musk, tandis que Trump offre à Elon Musk le pouvoir temporel, celui de réaliser ses projets. Donc je pense que ce couple devrait résister. Et pour les autres dossiers, les autres frictions possibles entre la Chine et les États-Unis, il faudrait également parler de l'Afrique, où les Chinois sont de plus en plus présents. Et ça, c'est quelque chose qui préoccupe la Maison-Blanche. Et également des institutions multilatérales. L'un des objectifs de l'administration Trump est de mettre à bas ce qu'il reste du système multilatéral, un système aujourd'hui bien moribond, avec une ONU devenue une naine sur la scène politique internationale, mais qui néanmoins est de plus en plus réinvestie par les Chinois, qui sont de plus en plus présents. Mmh. Et ça, c'est également une préoccupation pour Washington. Et donc, au sein du système multilatéral et de ses organisations, il pourrait y avoir des frictions un peu plus importantes que cela n'a été le cas durant la première administration Trump entre la Chine et les États-Unis. Taïwan, comme cela a été dit précédemment, a été très fortement soutenu par l'administration Trump. On se rappelle qu'à peine élu, Trump avait pris contact téléphoniquement avec la présidente de Taïwan, ce qui était quelque chose de jamais vu dans l'histoire des relations entre Taïwan et les États-Unis depuis la reconnaissance de la République populaire de Chine. Aujourd'hui, cette relation entre Trump, si je puis dire, et Taïwan est toujours forte, mais ne nous faisons pas d'illusions. Si Xi décidait de reprendre Taïwan par la force durant le mandat de Donald Trump, les États-Unis n'iront pas jusqu'à la guerre pour Taïwan. Ils n'ont pas envoyé un soldat mourir pour l'Ukraine, et malgré les intérêts économico-stratégiques liés à Taïwan et à cette région du monde, le dossier taïwanais est quand même plus ambigu, puisque comme vous le savez, les États-Unis n'ont jamais reconnu, comme d'ailleurs la communauté internationale et l'ONU, l'indépendance de Taïwan. Donc, un allié important, une relation forte, mais pas jusqu'à envoyer les GI mourir pour Taïwan.
Sur Taïwan, Jean-Pierre Cabestan, vous êtes d'accord avec Romuald Seurat ?
Non, pas complètement, non, parce que je pense qu'il n'y aura pas de, comme on dit en anglais, boots on the ground. Les États-Unis ne vont pas envoyer de troupes, évidemment, à Taïwan pour défendre Taïwan, mais ce qu'évoquait Marc-Julien, notamment de la saturation du détroit avec des drones, mais plus largement, je veux dire, comme option, mais plus largement, il est très difficile, si on prend la question inversement, hein, pour les États-Unis de ne pas intervenir dans un conflit autour de Taïwan, parce que c'est toute leur crédibilité dans le Pacifique occidental, même dans l'Indo-Pacifique, qui est en jeu. Donc oui, ils pourraient ne pas bouger. Mais je pense que les conséquences pour le Japon, pour la Corée du Sud et pour les Philippines ou même l'Australie seraient quand même très très importantes. Donc ça sera un dilemme, on verra quelle attitude adopteront les Américains. On peut aussi penser qu'ils peuvent exercer des pressions sur Taïwan comme ils l'ont fait par le passé, notamment sous Clinton ou sous Bush, afin que Taïwan reste dans le rang et évite de déclarer l'indépendance. De toute façon, il n'est pas question pour Taïwan de déclarer l'indépendance. Le vrai problème pour Taïwan, si je peux ajouter un mot là-dessus, c'est que en fait, le gouvernement à Taïwan est divisé. Vous avez une présidence qui est contrôlée par le parti de tendance indépendantiste, le parti démocrate progressiste, qui a du mal à faire passer son budget parce que l'Assemblée, le Parlement est contrôlé par l'opposition, le Kuomintang, qui a fait des coupes, procédé à des coupes importantes dans le budget. Et donc, le budget de la défense qui devait augmenter de manière substantielle cette année a été raboté. Et donc, Taïwan ne maintient pas ses objectifs en termes d'efforts de défense. Et vous savez que parmi les menaces que Trump avait exprimées hein, par rapport à Taïwan, c'est que Taïwan rasait gratis, c'est-à-dire qu'il n'investissait pas assez dans sa défense et voulait que Taïwan investisse jusqu'à 5%, même 10% de son PIB dans la défense. Pour l'instant, la Taïwan en est à 2,5%. Hein. Donc on en est loin. Et là, c'est, la situation actuelle est préoccupante pour l'administration de Trump parce qu'il va devoir exercer des pressions à la fois sur le Kuomintang qui veut des relations meilleures avec la Chine, qui a adopté une politique d'apaisement à l'égard de la Chine populaire. Et il voudrait surtout voir un Taïwan beaucoup plus crédible sur le plan de la sécurité. Et là, le chemin que prend Taïwan aujourd'hui, c'est plutôt un chemin qui est préoccupant, je pense, pour l'allié de fait américain. Donc c'est
quelque chose qui va les occuper autrement. Phrase.
Alors, oui. Romuald Seurat.
Oui, très très rapidement, tout ce qu'il vient de dire est très juste. Mais néanmoins, la seule personne que je connaisse personnellement dans cette administration, c'est Marco Rubio. Et bien qu'il soit un faucon, je reste convaincu que les États-Unis, évidemment, protesteront, prendront certaines mesures, certaines sanctions à l'égard de la Chine, mais ne bougeront pas tant que cela s'il devait y avoir une annexion. Néanmoins, je ne pense pas qu'il y aura une annexion au cours du mandat de Donald Trump.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce qu'on a évoqué dans la première partie de l'émission. C'est les théâtres parallèles entre les théâtres asiatiques et les théâtres européens. Romuald Seurat a parlé de la Chine en Afrique. On n'a pas évoqué, si moi en introduction, la Chine en Amérique latine. D'où ce coup, non pas de colère, mais en tout cas, voilà, Donald Trump est un peu sorti de ses gonds avec le canal de Panama, exaspéré parce que la Chine est très présente, et c'est vrai que la Chine est très présente en Amérique latine. Ce qu'on sent, Marc-Julien, c'est finalement une accélération de l'offensive de charme chinoise en direction du sud global, en direction des BRICS. Alors, j'ai deux questions. Un, le partenariat sans limite Chine-Russie, qu'est-ce que ça change pour les États-Unis? On est là, guerre d'Ukraine. Et puis, l'autre chose, c'est la nouvelle donne stratégique avec la Corée du Nord. On se souvient du premier mandat de Donald Trump avec l'échec des sommets entre Kim et Trump. Là, ce qu'on voit, c'est une affirmation de Pyongyang qui pousse Washington à adapter sa stratégie, vous allez nous le dire. Et ce traité de défense mutuelle signé par Poutine et Kim en juin 2024, c'est-à-dire il y a quelques mois. Marc-Julien.
Oui, alors sur la question de la relation Chine-Russie, vous avez parlé du partenariat ou de l'amitié sans limite. Alors ça, c'est un vocable qui est un peu moins utilisé désormais par Pékin. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un partenariat stratégique global entre Moscou et Pékin. Et ce partenariat, il est durable, il est déterminant pour les deux parties de ses partenaires. Je suis par contre un peu sceptique je me positionne dans un débat où certains pensent qu'on s'oriente vers une alliance bilatérale entre Pékin et Moscou et qu'il y a une sorte d'alignement de ces deux puissances dans beaucoup de domaines. Et moi, je crois au contraire qu'il y a encore une méfiance persistante entre ces deux acteurs, un manque de confiance sur beaucoup de sujets et un alignement sur plein de sujets, voire même une compétition dans certains domaines, sans doute dans leurs intérêts leurs respectifs en Afrique. La Chine est très intéressée par la route arctique, ce qui n'est pas pour plaire particulièrement à la Russie. La question de l'Asie centrale aussi présente certains intérêts divergents entre la Russie et la Chine. Mais en tout cas, ça veut, même s'il y a ces divergences, même s'il y a cette méfiance, ça ne veut pas dire que ce partenariat et surtout cette rivalité face et cette détestation des États-Unis, de l'OTAN et des démocraties libérales de manière générale n'est pas solide et durable entre les deux. Et puis effectivement, la nouvelle donne stratégique est extrêmement importante. C'est la montée en puissance de la Corée du Nord qui se vérifie depuis plusieurs années dans le domaine balistique, dans le domaine nucléaire, y compris dans le domaine spatial. Et là, cette alliance signée entre Moscou et Pyongyang au mois de juin 2024 est peut-être un accélérateur de cette montée en puissance de la Corée qui préoccupe beaucoup en Asie du Nord-Est et au-delà. Et donc on voit cette interconnexion des théâtres avec le théâtre ukrainien en Europe où la Corée du Nord devient de facto un belligérant de ce conflit et une accélération, une instabilité sur le théâtre est-asiatique qui, à mon avis, doit être à surveiller dans les mois et dans les années à venir puisque potentiellement ça peut porter des éléments perturbateurs très importants, y compris dans la stratégie américaine, puisque Donald Trump ne pourra pas relancer cette diplomatie, bon, qui, est, comme vous l'avez dit, était un échec, cette diplomatie des sommets avec Kim Jong-un, puisque aujourd'hui, déjà, Kim Jong-un est beaucoup plus puissant et son programme nucléaire est beaucoup plus avancé. Il est aussi moins isolé, puisqu'il y a l'allié chinois qui est là, et puis désormais l'allié russe. Donc on voit effectivement se consolider une sorte d'axe entre la Russie, la Corée du Nord, la Chine, peut-être même l'Iran, qui est préoccupant. Cela dit, je ne pense pas que ce soit une très bonne nouvelle pour Pékin, mais là, je dérive un peu
oui,
peut-être.
Oui, mais justement, j'allais poser la question à Jean-Pierre Cabestan en quelques secondes. Il nous reste 3 minutes. Jean-Pierre Cabestan, ce traité de défense mutuelle signé par Poutine et Kim en juin 2024, ça n'a pas dû faire sourire la Chine.
Non, la Chine est restée assez silencieuse sur cette question. Je pense que ça a évidemment élargi les options de Kim Jong-un. Donc, ça contribue à lui donner plus de marge de manœuvre par rapport à Pékin, dont la Corée du Nord reste très dépendante sur le plan commercial, donc beaucoup plus que de la Russie, même si elle bénéficie de la manne, la Corée du Nord bénéficie de la manne à la fois des ouvriers nord-coréens qui travaillent en Russie et puis de ses soldats qui sont sur le front ukrainien. Donc ça c'est... Mais je pense que là aussi, les Russes et les Chinois ne sont pas sur la même longueur d'onde. Maintenant, face au problème commun qui est l'Occident, les États-Unis, les deux pays font front commun. Donc, la guerre en Ukraine l'a aussi démontré, puisque la Chine, quand même, fournit un certain nombre d'armements, de technologies et de drones, vocation duale à la Russie et l'aide dans son effort militaire, en fait. Mais ça, on le sait, les services de renseignement américains et européens l'ont confirmé. La neutralité, elle est seulement de façade.
Dernière question, Romuald Seurat, dans la relation Chine-États-Unis, qu'est-ce qui est, d'après vous, à surveiller en premier ?
Évidemment, la guerre commerciale, mais essentiellement cet axe justement dont on vient de parler, ce partenariat, ce pacte entre la Chine et la Russie, qui malgré le froid produit par l'intervention de Kim Jong-un en Ukraine, va demeurer et devrait se renforcer. Je crois que Donald Trump va tout faire, et là il a raison, pour essayer d'obtenir de meilleures relations avec Vladimir Poutine, afin d'essayer de, si ce n'est écarter, d'éloigner un tant soit peu la Chine de la Russie. C'est le principal dossier qui sera suivi par la Maison-Blanche concernant la Chine et cette région.
Merci Romuald Seurat, je rappelle que vous êtes essayiste franco-américain, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l'IRIS. Votre dernier livre, L'Amérique éclatée, plongée au cœur d'une nation en déliquescence, aux éditions Armand Collin. Merci aussi à Jean-Pierre Cabestan, qui était avec nous par téléphone depuis Hong Kong, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur émérite à l'Université Baptiste de Hong Kong, chercheur à Asia Centre Paris, et qui vient de publier Deng Xiaoping, révolutionnaire et modernisateur de la Chine, aux éditions Thaïlandier. Et Marc Julien, directeur du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et directeur d'une toute récente étude intitulée « L'Indo-Pacifique face à Trump 2 dans l'étreinte brutale de l'oncle Sam ». Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique ? Rendez-vous sur RFI.fr.